en habit vert. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Priscille Lafitte.
Bonjour à tous, nous sommes en compagnie aujourd'hui de Jacqueline Fourastier. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la fille aînée de Jean Fourastier, le fameux économiste, et aujourd'hui secrétaire générale de l'association Philotechnique. Alors, vous avez travaillé avec votre père au Conservatoire National des Arts et Métiers et vous avez co-signé avec lui différents ouvrages, parmi eux « La réalité économique », Le pouvoir d'achat, prix et salaire, d'une France à une autre. Et puis, vous avez signé un ouvrage qu'on peut dire posthume, une sorte d'ouvrage biographique qui s'intitule Jean Fourastier, entre deux mondes. Donc, vous avez évidemment bien connu votre père au niveau personnel, mais aussi dans le cadre du travail. Est-ce qu'on peut savoir de quelle façon vous avez été amenée à travailler avec lui ?
Oui, alors bien sûr, étant sa fille, c'était normal que je travaille avec lui, mais en outre, j'ai fait des études plutôt orientées vers les mathématiques, et puis au moment où j'ai fait une thèse, je m'intéressais beaucoup à la pensée de mon père, et donc j'ai discuté du sujet de thèse avec lui, et le sujet de ma thèse de troisième cycle, ce sont les indices statistiques, le sujet de ma thèse d'état, c'est la mesure des quantités économiques. Vous voyez, c'était une manière de rejoindre mes études de mathématiques avec les préoccupations économiques, qui étaient d'ailleurs essentiellement là des questions de mesure, puisque mon père s'intéressait énormément aux statistiques, et tout ce qui est globalisant en statistique fausse beaucoup la réalité. Et donc, il voulait avoir des précisions mathématiques sur ces questions. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec lui.
Mais lui-même avait une formation scientifique de centralien.
Voilà, il sortait de l'école centrale, mais il avait fait Sciences Po également, et donc Et une licence en droit, donc, et ensuite un doctorat en droit. Et disons qu'il a fait, l'école centrale, mais dès l'école, il s'est dit qu'il n'était pas fait pour être ingénieur. Et donc, il est entré dans la fonction publique, et il a été commissaire contrôleur général des finances. Donc, il a commencé à travailler dans les assurances, en fait. Il y avait une direction des assurances au ministère des Finances, et c'est là qu'il a travaillé, et que ça lui a donné la possibilité de réfléchir à des questions économiques et en même temps un petit peu philosophiques, un petit peu l'ensemble des deux.
Donc pour resituer Jean Fourastier, il faut citer notamment son ouvrage qui est sorti en 1945, un Que sais-je qui a fait date, qui au bout de 6 mois a été épuisé. C'est le numéro 191 des Que sais-je qui s'intitule L'économie française dans le monde et qui a le mérite d'établir ce qu'on appelle aujourd'hui des vérités économiques sur lesquelles on ne revient plus, mais qui à l'époque était novatrice, comme comparer les chiffres français avec les autres nations. Avec celle de notre nation. Il y a introduit le concept de rendement et de productivité, et puis aussi la typologie entre les différents secteurs d'activité, primaire, secondaire et tertiaire, même si ce n'est pas encore exactement l'appellation du moment. Donc, un grand penseur de l'économie. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui avec vous, Madame Fourastier, c'est de voir un peu quels sont les liens entre la pensée économique de Jean Fourastier et puis sa vie quotidienne, puisque vous l'avez très bien connue. On sait que Jean Fourastier vient d'un milieu rural, ou plutôt était à cheval entre le milieu rural et le milieu citadin.
Oui, alors on peut dire qu'il était à cheval entre les deux, en ce sens qu'il a toujours travaillé en ville, disons, et même à Paris, mais il était très attaché à ses racines, qui sont de Douel, dans le Lot, près de Cahors. C'est là qu'il a vécu une partie de son enfance, parce qu'une partie de son enfance s'est faite pendant la guerre de 14. Donc, il y a vécu des vacances plus longues qu'un enfant, que s'il n'y avait pas eu la guerre. Et il y a même été là presque, on pourrait dire, chef d'entreprise, si on peut dire. Enfin, il était le seul homme présent de la famille. Puisque
il avait 12 ans.
Et voilà, c'est ça. Et même un peu moins au début. Et à cet âge-là, il conduisait l'ânesse pour aller dans les champs avec sa mémé, dont il parlait avec beaucoup de tendresse. Donc, il a vécu à ce moment-là cette vie traditionnelle du début du XXe siècle. Et puis, il y est retourné pratiquement tous les étés. Et dès qu'il est devenu professeur, pendant 3 mois d'été. Donc, il y vivait vraiment et ça lui permettait de voir un petit peu le contraste entre ce qui se passait en ville et ce qui se passait à la campagne. Et de plus, alors, il avait tout à fait conscience qu'il n'aurait pas pu vivre à la campagne parce qu'il n'y avait pas assez de place pour les agriculteurs. Son père a pratiquement été obligé de partir en ville parce qu'ils étaient à environ 250 petits exploitants dans ce village de 600-700 habitants qui avaient chacun des très petites terres dans des coteaux très pentus et très, très ensoleillés mais très secs.
Dans le Causse,
où on avait très peu de possibilités de culture. Alors, au début du XXe siècle, on vivait avec ça très très chichement, il faut le dire. Et puis, très vite, la culture, les progrès de la culture ont fait que ça n'était plus du tout rentable de cultiver ces terres-là.
Oui, parce qu'il a vu son propre père, en fait, participer à ce qu'on appelle aujourd'hui l'exode rural.
Tout à fait.
Donc, le transfert du secteur primaire au secteur secondaire. Il l'a vécu dans sa propre famille.
C'est ça, oui, c'était même d'ailleurs directement le secteur tertiaire, puisque son père a été fonctionnaire toute sa vie, dans les contributions indirectes. Et donc, effectivement, cet exode rural, c'est son père qui l'a vécu, et lui a bien eu conscience que c'était pas l'attrait des villes, comme on le disait, et comme on le dit encore, d'ailleurs, pour certains pays du tiers-monde, on dit, c'est scandaleux, tout le monde s'en va en ville, mais c'est peut-être aussi parce qu'on ne peut plus vivre à la campagne. Une nécessité économique. Et pour lui, ça a été une prise de conscience qui, certainement, a joué un grand rôle dans sa pensée économique, ce que vous disiez, ce déplacement d'une population qui était encore à 70% à peu près agricole en début du XXe siècle et qui maintenant est à moins de 5%, mais avec un transfert d'abord vers l'industrie et puis ensuite vers le tertiaire.
Oui, il faut rappeler en 1945, par exemple, qu'à l'époque, on célébrait la répartition harmonieuse entre les trois secteurs d'activité primaire, secondaire et tertiaire, qui représentaient environ un tiers de la population. Lui a observé que, par exemple, en Grande-Bretagne, le secteur primaire ne représentait plus que 7% de la population active. Et à l'époque, si j'ai bien noté, c'était 36% en France. Et il note au contraire que dans une nation où le secteur primaire n'est pas très important au niveau de la population, ça ne veut pas dire que cette nation n'est pas riche. Et c'était une notion tout à fait nouvelle à l'époque.
Tout à fait, oui, parce qu'on n'avait pas suffisamment cette notion simplement de la productivité du travail qui fait qu'aujourd'hui, dans des terres de Beauce, par exemple, un agriculteur tout seul, avec son tracteur, peut vraiment cultiver des dizaines, des centaines d'hectares, on peut dire, et avec des rendements du genre de 100 quintaux à l'hectare. Alors que, donc, avec ce système-là, on arrive à nourrir les Français très, très convenablement en céréales, simplement avec quelques hectares, enfin quelques centaines d'hectares, ou milliers d'hectares quand même, de terre, alors qu'autrefois, avec des rendements extrêmement faibles, il fallait beaucoup de monde, et puis ça donnait d'ailleurs des denrées qui n'étaient pas d'aussi bonne qualité que ce qu'on est capable de faire maintenant. Donc là, il y avait une autre manière de vivre et il fallait cultiver absolument toutes les terres de France, tous les petits coins et les causses pour sa région. Je les ai encore connues vers les années 40-50, vraiment des coins cultivés très 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 nombreux.
Il a connu, et vous avez connu aussi, la transformation, là en particulier du Lot, des villages et du système agraire dans ces régions-là, une transformation aussi de la société, évidemment. Ça, vous y retourniez tous les ans, c'est ça ?
Oui, nous, pratiquement, nous y sommes retournés tous les étés, très très régulièrement. Et c'est vrai, il a vu le changement. Et je pense à ce que vous disiez par rapport au fait que, effectivement, vers les années 45-50, il y avait, la répartition entre les trois secteurs était à peu près égale. Et dans ce village-là, elle était encore égale. C'est-à-dire qu'il y avait encore quelques dizaines d'agriculteurs. Maintenant, il n'y en a plus que trois ou quatre. Et qui vivent beaucoup mieux et qui produisent finalement beaucoup. Mais alors, dans cette répartition en trois parties, ce qui se passe, c'est que l'industrie était encore en croissance, justement, au moment où on est arrivé à un équilibre. Mais maintenant, il n'y a plus tellement besoin d'ouvriers industriels, par exemple, parce qu'il y a de plus en plus de machines qui font leur travail, et c'est un travail répétitif, très pénible, donc c'est une bonne chose. Mais par contre, alors, c'est le tertiaire qui a augmenté, si bien que la courbe telle que la voyait Jean Fourastier, telle qu'elle se réalise effectivement, c'est une descente en ce qui concerne l'agriculture, c'est une montée en ce qui concerne le tertiaire, et puis en ce qui concerne l'industrie, et ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle la courbe en cloche en statistique, c'est-à-dire que vraiment il y a une montée, puis ensuite ça redescend. Il y a très peu à l'heure actuelle de gens qui sont vraiment des producteurs industriels, ouvriers, même ingénieurs. La plupart, même dans l'industrie, ceux qui sont dans l'industrie actuellement sont aussi dans des services de recherche, dans des services de marketing, etc., qui sont encore des services.
Et d'ailleurs, ce village de Douel dans le Lot a même servi d'exemple pour un passage célèbre d'un de ses livres. Le village a tant changé que ça ?
Ah oui, c'est assez extraordinaire. Alors, ce village, donc ce à quoi vous faites allusion, c'est le premier chapitre de son livre dont le titre est le plus connu, c'est Les Trente Glorieuses. Les Trente Glorieuses, ça a donné vraiment le nom à cette période. Eh bien, au début des Trente Glorieuses, on voyait dans la rue, c'était des agriculteurs avec des bœufs et puis des charrettes et des charrues. Et puis, eh bien, à la fin des Trente Glorieuses, tout le monde avait des tracteurs. Il y avait d'ailleurs beaucoup, beaucoup moins d'agriculteurs. Comme ce village est très près de Cahors, les gens ont continué à habiter, mais ils sont allés s'employer à Cahors. Ou dans la région, enfin. Donc, parce qu'il y a d'autres villages qui se sont complètement dépeuplés pendant cette période-là. Parce que donc le nombre d'exploitants agricoles a énormément, énormément baissé dans cette période-là. Et en même temps que la richesse est tout à fait caractéristique. Hein, vraiment, je ne sais pas si je vais retrouver, ce serait très... il a écrit l'oraison funèbre de la marraine de son père, ici, parce que c'est assez étonnant, cette femme. Alors, elle est née dans les années 1800.
Vous feuilletez quel ouvrage, alors ?
Alors, je feuillette un très ancien ouvrage de lui, qui s'appelle « La grande métamorphose du XXe siècle ». C'est un ouvrage qui est de... je cherche la date exacte, 1961.
D'accord.
61. Et donc, c'est un petit peu avant qu'il avait écrit l'oraison funèbre de la marraine de son père. Et donc, cette femme était née en 1864. Et voilà ce qu'il dit. Le Douel de 1864 était bien différent de celui d'aujourd'hui. À peine s'éveillait-il de son long isolement de Moyen-Âge et de l'Ancien Régime. La route de la Cévenne n'était ouverte que depuis 1845, ce qui veut dire qu'on pouvait y accéder de Cahors très facilement. Le cimetière était à sa place traditionnelle. C'est là qu'on enterrait chaque année le lourd contingent des jeunes morts de ces dures époques. En 1864, on a enregistré à Douel 30 naissances et 16 sépultures d'enfants de moins de 6 ans. Alors, échappé à ces hécatombes annuelles, Arfine, donc c'est le nom de cette marraine, se trouvait avec une vitalité peu commune, une enfant bien typique d'une typique famille paysanne. Alors je ne vais pas tout vous lire parce que c'est assez long. Et mon père avait... Mais voilà comment elle termine. Courageuse petite fille de la dure époque, bonne épouse, bonne mère, admirable grand-mère, charmante voisine, charmante amie, etc., bonne chrétienne, vous avez vu les hommes passer de la faucille au fléau et à la faux, puis à la faucheuse, à la moissonneuse et enfin à la moissonneuse-batteuse. Et alors sa seule sortie, alors là on est en 1800, 1900, hein, sa seule sortie de sa vie, ça avait été d'aller au mariage, le jour de son mariage, d'aller voir une vieille tante. Et on se trouve devant quelque chose qui ressemble très fort, qui ressemblait encore très fort à ça en 1950.
Oui.
Et puis tout d'un coup, eh bien, on se trouve dans un vrombissement. Je cherche le de moteur, de donc tout le monde a une voiture, tout le monde a le téléphone, tout le monde. Ça m'a beaucoup étonnée. La première fois que je suis allée à Douel. Et que le téléphone avait enfin été posé. C'est vraiment la fin des Trente Glorieuses. Et de même apercevoir que tous ces gens qui jusque-là allaient se voir, mais ils se téléphonaient. C'est tout à fait différent. Une vie totalement différente.
Parce qu'ils ont façonné l'histoire de nos civilisations, ils furent acteurs ou témoins de cette histoire. Leurs travaux et ouvrages nous font traverser les siècles. Historiens, philosophes, économistes, juristes et sociologues s'expriment sur Canal Académie. Les membres de l'Académie des sciences morales et politiques racontent. Retrouvez-les dans Un jour dans l'histoire, une émission de la rédaction de Canal Académie.
Nous sommes donc en compagnie de Jacqueline Fourastier, fille aînée de Jean Fourastier, l'économiste. Est-ce qu'on peut dire que Jean Fourastier était encore très proche de ce monde rural tout au long de sa vie ?
Oui, donc il aimait beaucoup le milieu rural et disons son pays du Lot. Hein, ça c'est très clair, il aimait beaucoup. Et il y avait de la famille, puisque sa grand-mère était de là-bas et son père avait passé sa retraite là, donc avait gardé beaucoup de liens avec la famille. Donc il s'en sentait très proche. Bien sûr, lui-même n'a jamais vraiment cultivé la terre, sinon peut-être fait les vendanges ou des choses de ce genre. Et conduit son ânesse quand il était petit. Mais il en était proche et en même temps, d'ailleurs, du coup, il a ressenti les difficultés qu'ont eu les gens de son pays à se dire, eh bien, mon père était là, mais moi, je ne reste pas là. Et donc, je pars en ville pour tel ou tel métier. Ça s'est passé d'ailleurs pendant les Trente Glorieuses assez facilement, au moins dans cette région-là. C'est-à-dire que le père est resté à la terre et le fils est parti. Enfin, est parti d'ailleurs souvent et est resté sur place, mais on a pu aller faire quelque chose à la ville. Mais donc, un métier autre. Ça s'est passé relativement en souplesse. Ça se passe moins bien maintenant, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il y a énormément de chômage. Il y a encore des mutations tout à fait nécessaires de métier. Et maintenant, elles se passent plus difficilement.
Oui, entre secondaire et tertiaire ou entre...
Voilà. Oui, oui, même à l'intérieur du secondaire, à l'intérieur du tertiaire. Hein. Il y a des métiers en pointe, des métiers qui disparaissent, ouais. À peu près.
Donc, votre père, lui, était en pointe, on peut dire. Il a été repéré par Léon Blum et Jean Monnet en 1945 ou au début des années 50 pour,
En 1945, Léon Blum l'avait invité et il avait dit qu'il avait un flot d'idées neuves. Mais Jean Monnet, c'était plus loin puisqu'il l'a invité à venir au commissariat général au plan. Et donc, mon père, pendant une quarantaine d'années, a été au commissariat général au plan. Et essentiellement, il était président de la commission de la main-d'œuvre. Donc, s'occupait de l'emploi. Et donc, pour lui, c'était d'ailleurs à la fois une occasion d'exposer ses idées et puis de recevoir aussi énormément parce que ces commissions du plan étaient tout à fait bien conçues avec il y avait des fonctionnaires, il y avait des chefs d'entreprise ou des représentants des chefs d'entreprise et puis il y avait des syndicats et des ouvriers ou des employés. Donc ça permettait d'avoir des points de vue très très différents et ça le passionnait tout à fait.
Et l'occasion de mettre en œuvre directement directement ces idées. Pour le
c'est
coup,
ça, et en même temps de les alimenter, vous voyez, de recevoir et de donner, dans les deux sens. Ouais.
On peut dire que c'est là, c'est à ce poste-là que l'aura de Jean Forastier était la plus grande.
Là, je ne saurais pas dire, et ça a été un rôle important d'être commissariat général au plan. Ce qui se passe, vous avez fait allusion à l'un de ses livres, donc L'économie française dans le monde. Et il a eu très peu après un très grand livre qui est Le grand espoir du XXe siècle. Et c'est un livre qui, en France, a tiré à 300 000 exemplaires et qui a été traduit en 12 langues, je crois. Donc, qui a eu une renommée internationale. Alors, son aura, vous savez, c'était pas. Il n'est pas devenu tout d'un coup quelqu'un de très très connu, mais il a été, à partir de ces périodes-là, à partir du moment où il a pu aussi. Et se détacher tout à fait du ministère des Finances qui lui demandait un travail de bureau assez régulier et pour faire de l'enseignement. Et ça, Jean Monnet est pour beaucoup dans le fait qu'il est devenu enseignant. Eh bien, il s'est senti assez, assez libre pour réfléchir, pour aussi répondre beaucoup à des demandes de conférences. Il a été dans beaucoup de pays pour inviter des conférences.
Sa productivité à lui était maximale, alors.
Oui, ce n'était pas quelqu'un qui cherchait. Vous savez, on voit des gens qui sont impressionnants parce qu'ils travaillent énormément. Lui, non. Il avait un rythme lent qui lui permettait de réfléchir. Quand il était dans le Lot, il prenait de longs temps pour se promener, par exemple. Et puis, il ne se levait pas très tôt. Alors, malgré tout, quand il était dans le Lot, il écrivait, disons, un livre par été. Et il produisait, si on peut appeler ça produire, une dizaine de pages par jour. Mais très tranquillement, sans forcer. Il ne se disait pas, oh là là, je n'ai écrit que 9 pages aujourd'hui, alors il faut que je veille jusqu'à ce que je les ai faites. Non, c'était un petit peu l'inspiration du moment. Et puis si le lendemain, il avait envie d'aller se promener, il le faisait. Et en sachant en même temps que ça permettait, je dirais, à son cerveau de se reposer et de trouver de nouvelles idées. Oui,
oui, on dit de lui qu'il était très observateur, voire contemplatif même. Est-ce que ça lui servait pour sa pensée économique ?
Oui, alors certainement il observait, il écoutait, il était vraiment quelqu'un de très attentif. Hein, et ça, c'est très important. Et c'est vrai, alors qu'en plus, quand vous employez le mot observer, et pour lui, ce qui était très important, c'est toujours de partir des faits. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui le démarque de l'économie contemporaine où il y a beaucoup de théories. Et lui ne voulait jamais rien dire qui n'ait été à coup sûr prouvé, donc observé. Et alors il observait les choses, il observait aussi les chiffres. Il était absolument passionné par les annuaires statistiques, ce qui n'est pas le cas du commun des mortels, parce qu'en général, on dit « oh là là, des chiffres ». Mais pour lui, c'était chargé de même d'émotion. Il a un passage très, 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 très beau au début, je pense, de l'économie française dans le monde, dans lequel il explique la charge d'émotion qu'il peut y avoir dans une série de chiffres qui peuvent traduire les guerres, le malheur des gens, leur bonheur, etc. Donc, je crois que pour lui, c'était très, très important.
Et dans le livre de Monsieur Arouel, qui fait un peu une sorte d'anthologie, on va dire, des écrits de...
Oui, c'est une anthologie, oui.
Des écrits de Jean Forastier. Et il parle aussi de son rapport à la nature qui peut s'apparenter à son observation de l'économie, dans le sens où tout a sa place et chaque chose, et chaque élément, chaque pierre est un élément, soit du passé... Qui explique les choses.
Oui, oui, tout à fait. Pour lui, c'était très important de voir, de regarder. Il y a un passage de ses livres qui dit tout à fait ça. Je suis d'un pays où les vallées sont aussi bornées que celles des Pyrénées et des Alpes. mais où les sommets sont à moins de 30 minutes d'escalade, où l'on va continuellement de vue immense aux vues partielles, où presque simultanément à la conscience de milliers de kilomètres carrés, les herbes, les insectes et les cailloux s'imposent comme si l'on passait sans cesse par le procédé qu'on appelle aujourd'hui en optique le zoom, de la longue vue au microscope. Je vois mourir des vignes où j'avais naguère vendangé et pousser des buissons là où j'ai vu moissonner, où sans cesse un mort ruine, un mur écroulé, une pierre levée, un fossile, rappelle à la fois le détail et l'immensité du temps. Et il dit que c'est ceci qui est vraiment à la base de sa méthode. Et dans le même passage, c'est dans les conditions de l'esprit scientifique qu'il dit ça. Et il dit, eh bien du coup, pour moi, ce qui m'a paru le plus important, c'est placer toujours le fait observé dans son environnement physique, local, géographique, parmi les autres faits coexistants, cohabitants ou interférents avec lui dans l'espace, placer de même ce fait dans le temps en le considérant comme événement d'une histoire unique et éphémère qui ne peut être connue que par sa place non seulement dans le présent et dans l'actualité récente, mais encore dans l'évolution séculaire et même en général millénaire. Vous voyez, pour lui, c'était tout à fait important de regarder les choses dans leur ensemble. Et pour lui, et il regardait rarement un fait économique d'une façon seulement actuelle. Et pour lui, le passé pouvait engendrer l'avenir. Et donc, sa vision était toujours prévisionniste, même prospective, à cause de ça.
Quel type de méthodologie est-ce qu'il vous a légué à vous ? Qu'est-ce que vous avez repris de lui ?
C'est difficile. De toute façon, je ne suis pas du tout à la hauteur de ce qu'il a fait. Mais c'est certain que j'ai hérité de lui un désir de toujours contrôler les choses, de m'appuyer sur des données précises, de regarder aussi et dans le temps. Ce qu'il disait à l'instant, pour moi, c'est très important de relativiser. Je pense, par rapport même au fait de la vie courante, quand tout le monde vient vous dire les prix augmentent, les prix augmentent, il faudrait peut-être regarder exactement. Et puis, est-ce que votre salaire n'a pas augmenté aussi ? Et les questions à voir dans leur ensemble. Parce que c'est un petit peu rapide. Souvent, les conclusions qu'on voit, même dans les journaux, sont souvent à partir d'un aspect, mais on ne regarde pas toujours les autres. Et ça, je crois que Jean Fourastier m'a légué un petit peu le désir de le faire. Je n'y réussis pas toujours.
Vous écoutez Canal Académie.
Nous sommes toujours en compagnie de Jacqueline Fourastier, fille aînée de Jean Fourastier, elle-même économiste et secrétaire générale de l'association Philotechnique. Jacqueline Fourastier a co-signé un certain nombre de livres avec son père. Pour revenir là où nous en étions du parcours de Jean Fourastier, donc il a été au plan, il a été enseignant un certain nombre d'années au CNAM, au Conservatoire des Arts et Métiers, où vous-même vous avez travaillé avec lui. Il a été professeur également à l'IEP de Paris. Et à l'école pratique des hautes études. Il paraît d'ailleurs qu'à l'époque, quand il est devenu titulaire, ses enfants, donc vous, auriez dit qu'il était devenu un professeur pur. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors ça a été un mythe pendant quelques années dans la famille. Donc pendant tout un temps, il était à la fois au commissariat général au plan et puis au ministère des Finances. Et c'était un petit peu une tension pour lui. Et alors, il y avait c'est Jean Monnet qui a eu un petit peu l'idée de le faire devenir professeur et qu'il gagne sa vie comme professeur, parce que au commissariat au plan, il n'était même pas rémunéré du tout. Donc, il fallait quand même qu'il nous fasse vivre. Nous parlions en famille du fait de la merveille que ce serait le jour où notre père serait professeur pur. Parce qu'il était professeur déjà, par exemple, au Conservatoire national des arts et métiers et à l'Institut d'études politiques depuis avant la guerre. Mais et c'était pour lui simplement des vacations, et donc ça n'était pas son travail principal. Et alors, on se disait, quand il sera professeur pur, eh bien, ça sera la merveille. Il est devenu professeur pur quand il est entré à l'école pratique des hautes études. En fait, le titre, c'est directeur d'études à l'école des hautes études. Après, il est devenu professeur titulaire de chaire au Conservatoire des arts et métiers, mais pendant quelques années, c'était ça, ce qui lui permettait de gagner sa vie en donnant, en fait, à l'école pratique des hautes études, ses obligations, c'était un séminaire qui lui prenait une matinée par semaine. Il suivait des mémoires et des thèses avec ça, ce qui était tout à fait intéressant. Mais donc, ses obligations étaient relativement faibles et lui permettaient de faire de la recherche et puis d'être aussi au commissariat au plan, autant que c'était nécessaire.
Donc Jean Forestier est surtout connu pour ses écrits concernant la période des Trente Glorieuses, c'est d'ailleurs lui qui a inventé le terme. Donc une période de création de richesses, d'augmentation de la productivité, de grande transformation du visage de la France à tout niveau, dans tous les milieux. Il a également vécu, puisqu'il est décédé en 1990, il a également vécu ce qu'on appelle la crise pétrolière, on peut dire le ralentissement de la croissance, l'arrivée du chômage de masse. Comment lui-même percevait cette période? C'est quand même à l'encontre d'une idée d'augmentation de la productivité sans fin.
Alors, je crois qu'il y a deux aspects dans ce que vous dites. D'abord, l'augmentation de la productivité, elle existe toujours. Et si vous demandez si c'est actuel, eh bien, actuellement, il y a toujours augmentation de la productivité. Et dans beaucoup de secteurs, bien entendu, pas dans les services, mais dans les autres secteurs, il y a toujours augmentation de la productivité. Et dans beaucoup de secteurs, bien entendu, pas dans les services, mais dans les autres secteurs, il y a toujours une augmentation très forte de la productivité. Il y a qu'à citer le fait que les ordinateurs, par exemple, bien, leur prix baisse très très rapidement. Pourquoi? Parce qu'il faut moins de travail, donc il y a une productivité plus forte.
Mais... Donc l'actualité, oui.
Ça reste vrai. Ouais. Ça reste vrai, et donc il reste vrai aussi les mouvements de population dont nous venons de parler. Non, on n'a pas beaucoup parlé des mouvements de prix, qui pour lui était très très important, mais tous les prix, qu'ils soient agricoles ou surtout industriels, ont énormément baissé par le fait que la productivité a augmenté et que par conséquent il faut moins de travail. Et finalement, c'est le travail qui coûte qui fait le prix de revient d'un objet, c'est le travail intégré, y compris le travail de la personne qui a fait la machine qui produit qui produit l'objet. Alors par contre, pour ce qui est de la croissance au sens strict, eh bien la conclusion des Trente Glorieuses, qui est donc un livre qui est paru en 78, à la fin de la période qu'il a appelée lui-même les Trente Glorieuses. Et il écrit quelque part dans ce livre que cette croissance n'est pas possible de façon permanente. En ce sens que c'était une croissance de l'ordre de 7% par an. Et en 10 ans, 7% par an, ça donne un doublement. Alors en gros, c'est à peu près vrai pour les Trente Glorieuses, 2 fois 2, 4 fois 2, 8. Mais quand on fait 2 fois 2 comme ça, 10 fois, 2 puissance 10, eh bien ça fait 1000. Et donc, il a écrit, et en 78, « J'attendais la fin des Trente Glorieuses ». Simplement, enfin, si on détaille ce qu'il voulait dire, c'est parce que 2 puissance 10 égale 1000, et qu'il n'était donc pas possible, à son avis, que la richesse, la production de richesse aille jusqu'à se multiplier par 1000. C'est déjà énorme qu'elle soit multipliée par 8 et qu'elle continue à croître. Parce que vous avez très justement employé le mot ralentissement de la croissance, ce qui n'est pas du tout le fait qu'il n'y a pas de croissance. Il y en a, mais elle est moins rapide. Et c'est cela qu'il prévoyait. Par contre, ce qu'il ne prévoyait pas, mais qu'il a vu commencer, c'était le chômage. En ce sens que là, il y a quelque chose qui est un petit peu, enfin, qui est tout à fait déréglé dans la machine, parce que pendant les Trente Glorieuses, c'est certainement la période où il y a eu le plus de gens qui ont dû changer de métier, mais vraiment, carrément, justement, passer de la campagne à la ville ou des choses comme ça. Mais ça s'est passé avec un chômage très, très modéré. J'entends encore mon père dire 300 000 chômeurs, c'est beaucoup trop. Sinon, aujourd'hui, si on disait on a 300 000 chômeurs, on serait ravis. Hein? Mais il disait ça vers les années 70, par là. Il est évident que là, il y a quelque chose qui s'est déréglé, qu'il n'a pas vraiment expliqué, sinon que pour lui, il y a un choix un petit peu entre le niveau de vie, et ce qu'il appelait le niveau de vie et le genre de vie. Le niveau de vie, c'est en gros, ça se traduit par le salaire, si vous voulez. Tandis que le genre de vie, c'est la manière de vivre. Et ce qu'il avait vu, c'est qu'on allait diminuer le temps de travail. Mais quand on diminue le temps de travail, on diminue la production. Donc, on diminue la richesse. Et ce qu'il a observé dans les derniers temps, c'est qu'il y a bien une diminution du temps de travail. L'un de ses livres s'appelle « Les 40 000 heures ». Les 40 000 heures, c'était les 40 000 heures dans une vie où on travaillerait. Eh bien, il a vu cette diminution, mais en même temps, chaque fois qu'il y a eu diminution officielle du temps de travail, il y avait maintien du salaire. Et par conséquent, un désir de maintenir le niveau de vie. Or, il y a un équilibre qui ne s'est pas fait. Donc, c'est-à-dire que ceux qui ont voulu travailler moins ou qui ont subi le fait qu'on les obligeait à travailler moins n'ont pas accepté d'avoir du coup un niveau de vie moindre. Et je crois que c'est ça qui est un petit peu l'une des causes du chômage. C'est pas du tout la seule, mais c'est une cause qui est une explication de Jean Fourastier, disons.
Il y a un autre aspect que Jean Fourastier n'avait pas forcément bien prévu, c'est le fait que l'augmentation des richesses ne produit pas le bonheur. C'était une grosse déception pour lui. Il croyait réellement que la société serait plus heureuse.
Oui, et il a connu cette vie qu'il appelle millénaire et qui est effectivement traditionnelle, dans laquelle les enfants mouraient. Là, je vous ai lu un petit passage.
Oui, donc société rurale, où rien ne bouge depuis des générations.
Rien ne bouge, mais en plus, si vous voulez, 30 enfants en bas âge sont morts l'année où est née la marraine de son père. Hein, je viens de vous le lire. Donc, c'était des temps très durs. Dans lesquels on souffrait de malnutrition, la médecine était à peine embryonnaire, donc on était malheureux. Et Jean Fourastier pensait que le jour où tout le monde mangera sa faim et mieux qu'à sa faim, où on pourrait avoir d'autres biens, et bien on serait plus heureux. Et de fait, et si vous voulez, on a des moyens qu'on n'avait pas. Ce qui est assez étonnant, c'est que c'est le savetier qui chante et c'est pas le financier. Vous voyez dans la fin de La Fontaine qu'il aimait bien d'ailleurs. Et de fait, probablement les gens du début du siècle qu'il a connus au début du XXe siècle, et qui souffraient encore énormément de malnutrition, qui avaient très peu de choses. Sa mémé, c'est intéressant. Elle lui, quand il arrivait en vacances, eh bien, elle lui donnait un verre d'eau sucrée. C'était la chose. Alors l'eau sortait
la
du puits, c'était la récompense. Elle lui donnait le jour de
la sucrerie,
le jour où il arrivait. Oui, c'était ça. Hein. Bon, alors il a connu ça et il pensait que peut-être quand on pourrait leur donner des jouets et des tas de choses bonnes à manger, eh bien, ça serait plus agréable. Donc, il l'a pensé longtemps. Et puis, ça a été effectivement une déception, alors qu'il a vu, je dirais même presque dès le grand espoir du XXe siècle. Mais voyez ce nom, le grand espoir du XXe siècle.
Oui,
il espérait bien.
Ouais.
Oui, et il ne s'est pas trompé au plan économique. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il a pensé que le bonheur allait augmenter. Et il a été très déçu, effectivement, de voir qu'au contraire, Il a emprunté à René Girard le mot de vanité triste. Pour lui, ce monde dans lequel nous sommes était dans cette vanité triste qui fait que c'est...
Lui-même était un homme de quel tempérament ?
Optimiste, vous avez tout à fait raison. C'est pas un monsieur qui... Enfin, il chantait volontiers, mais enfin, il n'était pas extrêmement gai. Il était assez sérieux, hein, comme à bord. Attentif, écoutant, mais pas jovial.
Est-ce qu'à la fin de son parcours, il y a certains éléments ou certaines théories sur lesquelles il a dû revenir?
Alors, nous avons réédité ensemble Le grand espoir du XXe siècle, très peu avant son décès, hein, vers 87 ou quelque chose comme ça. Et vraiment, tout était bon, mais il disait, il y a un chapitre que je reverrai maintenant, que je ne réécrirai pas comme ça, c'est celui du commerce extérieur. C'est-à-dire que ce que nous appelons maintenant la mondialisation, ce n'était pas un mot encore très, très courant, a été beaucoup plus vite qu'il ne l'a pensé. Et donc, pour lui, il raisonne beaucoup en économie fermée au niveau de la France. Et bon, tout en parlant de commerce extérieur, bien sûr, mais à l'heure actuelle, on n'en est même plus à parler de commerce extérieur. Quand on a un objet, on ne sait plus très bien s'il vient de Taïwan ou des États-Unis ou de je ne sais où. Et donc, et puis quelquefois, il a été fait dans trois endroits différents. Et ça, c'est sûr que ça a été un petit peu neuf. Il en avait tout à fait conscience, mais c'est vrai que là, il aurait dit... Et il aurait corrigé un petit peu ce qu'il a écrit, ce point.
Et comment il considérait les mouvements écologistes qui prônent un retour à la Terre, qui remettent en question toute cette période de croissance en disant, mais finalement, est-ce que c'était une bonne chose? Comment est-ce que lui voyait ça?
Alors, d'une part, la croissance, il était pour, hein, on peut dire. Et il était tout à fait respectueux de la nature. Et donc, sur certains points, il aurait rejoint les écologistes. C'était d'ailleurs un mot pas très employé au moment de sa mort. Mais en même temps, il avait un petit peu d'ironie, disons, vis-à-vis de ce mouvement, dans la mesure où il pensait que les écologistes souhaitent un retour en arrière, mais en même temps sans être certains, enfin sans se rendre compte de ce qu'était cet arrière. Et il le traduisait par exemple avec, il aimait pas du tout être piqué par des bêtes. Et il disait, les écologistes, ils veulent la nature d'autrefois, mais sans les moustiques ni les puces. Hein? Et c'est vrai que, il y avait énormément d'inconvénients dans la vie traditionnelle, et ça, il en avait très, très fortement conscience. Il avait vraiment conscience, justement, de cet état de famine endémique. Il savait ce que c'était que des fruits gâtés. Toute mon enfance, on a mangé des fruits gâtés parce qu'on prenait ceux qui commençaient à être pourris. Bon. Aujourd'hui, on n'a plus idée de choses comme ça. Et alors, l'écologiste imagine que les fruits d'autrefois, ils étaient encore bien plus beaux que là. De même, tout ce qui est aspect de propreté, de respiration. Son pays de Douel était vraiment pénible à traverser, et encore dans les années 40-50, parce qu'il n'y avait pas le tout à l'égout, et donc tout ce qui descendait des éviers tombait directement dans la rue. Et alors, bon, ça faisait des eaux croupissantes, et avec des papillons, peut-être autre chose aussi, là-dedans. Et on ne peut pas dire que ça soit sale non plus le rêve des écologistes, mais donc, il mettait beaucoup l'accent sur ces aspects-là, vous voyez.
Et autre point qui va avec aussi, qui est similaire, on remet aussi beaucoup en question la façon dont les pays en voie de développement sont en train d'organiser leur croissance. Est-ce que c'est justement quelque chose que Jean Forastier a remis en cause à la fin de sa vie, ou au contraire, il prenait encore toujours une théorie de croissance et d'augmentation de la productivité?
Oui, tout à fait. Hein. Et ce qu'il souhaitait et ce qu'il lamentait, disons, par rapport aux pays en développement ou du tiers-monde, il le faisait se lamenter, excusez-moi, et bien c'était le fait que justement les progrès techniques tels qu'ils existent ici, nous n'étions pas capables de le transmettre à ces pays du tiers-monde en développement, etc. Enfin, ils ont changé de nom à plusieurs reprises dans sa vie depuis. Mais ce sont des pays qui, effectivement, ne profitent pas des bienfaits du progrès. Et ça, pour lui, c'était très, très dommageable. Et alors, il insistait énormément sur la nécessité d'une formation des cadres dans ces cas-là. C'est-à-dire qu'il a toujours dit que, au fond, les ouvriers sont les mêmes un petit peu partout. Mais par contre, un cadre bien formé est capable de faire donner un rendement extraordinaire à une équipe, alors que ça peut être aussi n'importe comment, si l'organisation n'est pas bien faite. Et on voit souvent dans les pays en développement des dizaines d'hommes qui sont en train de se préparer à faire quelque chose, qui palabrent, et pendant qu'ils palabrent, ben, ils ne travaillent pas en fait. Et on voit qu'en fait, ils n'ont pas un plan bien déterminé avec quelqu'un qui peut-être vient passer simplement une heure, mais qui leur dit « toi, tu feras ça, toi, tu feras ça », et qui fait avancer. Donc ça, pour lui, c'était une des choses importantes et qu'il souhaitait développer.
Il avait voyagé dans des pays d'Afrique ou d'Asie.
Il a beaucoup voyagé, plutôt dans des pays développés. Il a passé beaucoup de temps aux États-Unis. Il a quand même passé beaucoup de temps...
Dans le système économique le fascinait, après la guerre.
Ouais. Le fascinait, je ne sais pas, parce qu'il ne se laissait pas embarquer trop, mais en tout cas, dont il savait qu'un certain nombre des choses qui se passent aux États-Unis se passeraient en France. Et il a beaucoup travaillé même au Mexique, au Chili, et qui sont des pays en développement. Il a, au service de ces pays, il a fait un plan au Chili, puis au Mexique aussi, il a fait des travaux. Et sinon, il est allé un petit peu dans tous les pays du monde, au moins pour des tournées de conférences. Il avait été très marqué par les pays soviétiques et la stagnation de ces pays. Énormément. Il racontait beaucoup ce qui est arrivé la première fois qu'il est allé en Russie. Et il voit des queues extraordinaires devant les boulangeries. Alors il demande à son guide pourquoi. Et on lui répond, il y a un petit problème à l'usine à pain, donc c'est pour ça qu'il y a la queue. Puis il va dans une autre ville, et puis même queue. Alors, mais il n'a jamais pu obtenir qu'on lui dise, c'est parce qu'il n'y a plus assez de blé en URSS. Mais c'était ça. Mais ça n'était pas avoué. Et donc, il avait tout à fait conscience du fait que ces pays-là ne se développaient pas, alors à cause de leur régime politique, mais aussi du fait que la productivité n'y augmentait pas, au contraire.
Jacqueline Fourastier, on peut citer l'ouvrage qui vient de sortir, de texte choisi par Jean-Louis Harwell. C'est donc une réédition d'un certain nombre de textes fondateurs de la pensée de Jean Fourastier. Est-ce qu'à un moment, la pensée de Jean Fourastier est un peu tombée dans l'oubli, on va dire ? Je crois qu'à un moment, ses œuvres n'étaient plus rééditées.
Oui.
Pourquoi est-ce que les économistes étaient passés à autre chose ? Ils n'étaient plus dans l'air du temps de s'intéresser aux mêmes choses, aux mêmes éléments que les travaux de Jean Fourastier ? Qu'est-ce qui s'est passé ?
C'est difficile à dire. Il y a toujours eu des livres de lui qui se sont vendus. Mais c'est vrai que...
Et à un moment très bien vendu, à certaines époques.
Voilà. Le grand espoir étant l'exemple typique. Les Trente Glorieuses, disons que c'est plus le titre qui a fait recette que le livre lui-même. Mais bon, c'est vrai qu'il a été vendu et très, très traduit. Et ce qui se passe, disons que c'est depuis son décès que les livres disparaissent, d'ailleurs d'une façon très déconcertante. J'ai reçu à peu près en même temps un avis des presses universitaires de France me disant que l'économie française dans le monde, ils ne voulaient plus le rééditer parce qu'il ne se vendait pas assez. Et en même temps que ce même livre est traduit en chinois. Vous voyez, et alors je pense que les Français s'y intéressent moins. Alors j'espère que la réédition de ce, enfin l'édition de ce livre et la réédition très récente aussi de des Trente Glorieuses, c'est paru il y a à peu près un an, une nouvelle édition des Trente Glorieuses, va permettre aux Français de recommencer à connaître un petit peu Jean Fourastier. Alors pourquoi ? Eh bien, certainement en tout cas les économistes universitaires ne sont pas du tout de l'école de Jean Fourastier. Ça, c'est pour lui, c'était un petit peu un échec. La dernière chose, une des dernières joies qu'il a eues, c'est de faire, je crois que c'est la dernière année avant sa retraite, il a fait un cours à l'université d'Assas, là, Panthéon Assas. Et pour lui, c'était une certaine reconnaissance de la part de l'université qu'il n'avait jamais eue et qu'il n'a d'ailleurs pas eu beaucoup de traces. Donc il y a cet aspect-là. Et puis, sinon, il y a, vous savez, c'est très très difficile que lui présent, les livres s'entretenaient un petit peu eux-mêmes. Et après, c'est un peu difficile. Alors, il y a un comité Jean Fourastier qui est en fait un petit peu à la base, outre le travail énorme qu'a fourni Jean-Louis Harouel de ce livre, et qui essaye de faire un petit peu prendre conscience aux personnes que Jean Fourastier a encore quelque chose à dire. Et ce comité compte d'ailleurs pour 2007 célébrer un petit peu le centenaire de la naissance de Jean Fourastier.
Jacqueline Fourastier, je vous remercie d'avoir passé cette heure entière avec nous. Donc je rappelle le titre du livre de Jean-Louis Harouel, Productivité et richesse des nations, il est édité chez Gallimard cette année. Bonne écoute de nos émissions sur Canal Académie.